coup piano, un coup micro, bon, c'est pas grave. Alors les vacances, le repos, ne rien faire, bah, c'est sûr que c'est une aspiration finalement bien légitime. Une aspiration que notre style de vie contemporain a même ritualisée. Les anciens trouvaient que, tiens, on parlait de la tante Madeleine tout à l'heure avec nos amis du Geisberg, pour elle, Dieu prend pas de vacances. Ça faisait partie de ses formules consacrées. Et donc, il était pour elle inconcevable qu'on s'arrête, que la vie s'arrête parce qu'on avait besoin de prendre des vacances. Pour les plus anciens, est-ce que vous vous souvenez que entre 1981 et 1984, il y a même eu en France un ministère du temps libre? Alors, ça fait un peu sourire aujourd'hui parce qu'on n'est plus du tout dans cette logique-là, mais comme il y avait la retraite à 60 ans, comme la durée de travail se réduisait, bah, du coup, ça dégageait du temps. Et qu'est-ce qu'il fallait faire de ce temps libre? Ne rien faire, se reposer. Et donc, il y avait ce ministère qui coiffait aussi la jeunesse et les sports, le tourisme. Donc, c'était cette idée de... Il fallait aussi que la République s'occupe d'organiser ce temps libre pour les gens qui allaient en avoir de plus en plus, peut-être. Alors bon, tout ça est assez loin derrière nous. Hein. Je parlais de... Évidemment, c'est les années 80, donc beaucoup d'entre nous ici n'étaient encore pas nés. Donc évidemment, ça fait un peu préhistorique, mon histoire. Mais parler du repos, comme Christelle vient déjà de nous y inciter avec... un certain nombre de réflexions, après tout, c'est parfaitement légitime. Et j'allais même presque dire, après tout, nous n'avons rien inventé. Puisqu'effectivement, tu as cité le fait que dans la Genèse, il nous est bien dit que Dieu a travaillé pendant 6 jours, il a créé le ciel et la terre. Alors bon, c'est cette représentation de Dieu qui est à l'œuvre, qui travaille. Et le 6e jour, ayant constaté que tout était parfaitement accompli, il s'est reposé. Donc ce n'est pas illégitime de chercher du repos. Alors c'est vrai que de nos jours, hein, quand on regarde autour de nous, nos contemporains, nous-mêmes, on a quand même plutôt l'impression, même si on a effectivement de plus en plus de temps libre, hein, aujourd'hui on travaille 35 heures, quand j'ai commencé à travailler, on était au moins à 40 heures, et je me rappelle quand mon père travaillait, il travaillait aussi le samedi matin, etc. Donc voilà, on a de plus en plus de temps libre, et est-ce que les gens ont l'air plus reposés pour autant? Je n'en suis pas certain quand on regarde autour de nous, nous-mêmes hein, d'ailleurs, pas la peine d'aller chercher les autres, regardons-nous dans la glace le matin et nous verrons que nous avons tendance à être peut-être moins occupés par le travail, mais pas moins stressés pour autant, tendus, jamais satisfaits. Évidemment, comme nous sommes abreuvés d'actualités qui sont, et surtout en insistant sur les mauvaises, je ne sais pas si vous avez vu les journaux télévisés ces derniers jours, mais il n'y a que les images des incendies de forêt. Alors c'est dramatique, certes, mais on se dit, il n'y a pas tout à fait que ça qui se passe dans le monde. Il y a des choses qui se passent qui sont bien ailleurs, puis des choses qui ne sont pas bien ailleurs aussi. Mais on ne parle que... Alors bon, j'ai une pensée très, très chaleureuse, évidemment, c'est le cas de le dire, pour les gens... Excusez-moi du jeu de mots, ce n'était pas volontaire. Pour les gens qui ont tout perdu, parce qu'il y en a qui ont tout perdu, etc. Donc je pense qu'on peut aussi, d'ailleurs, les porter dans notre cœur, parce qu'on peut imaginer que dans le stress général, ça en rajoute une couche, en quelque sorte. Mais même sans cela... Notre actualité fait que nous sommes constamment sous pression. En tout cas, c'est l'impression que donnent les gens. On ne parle que de sujets comme ça. Et pourtant, depuis bien longtemps, des paroles que nous lisons dans la Bible peuvent et devraient résonner à nos oreilles, à nous qui sommes chrétiens et qui tenons la Bible comme une révélation importante de ce que Dieu nous dit jour après jour. Le prophète Ésaïe, c'est dans le chapitre 30, tous ces prophètes parlaient dans des périodes compliquées. Hein. C'est pour ça qu'ils sont arrivés. C'était des périodes où voilà, ça se cherchait, quoi, pour le moins qu'on puisse dire. Des fois, ils étaient dans des situations plus ou moins dramatiques, où on voyait venir des situations dramatiques. Et dans Ésaïe 30, verset 15, on lit car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, c'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Retour à Dieu et repos. Retour à Dieu qui, dans certaines traductions, est indiqué comme conversion. Qu'est-ce que vous avez comme... retour à Dieu, là. Tiens, ils ont trouvé ce que... Ils sont forts, là-bas, la régie, parce que je ne leur avais pas donné mes notes avant. Ils sont en temps réel. Le retour à Dieu, là. La Jérusalem, mettent le mot conversion, même, vraiment. Donc retour à Dieu et repos. Confiance et calme. Voilà ce qu'on trouve dans ce verset-là. Est-ce que ces paroles résonnent dans nos têtes, là, quand nous sommes dans des situations où, effectivement, on aurait tendance à se laisser embarquer par le stress ambiant? Parce que c'est sûr que l'homme, l'être humain, ce presque Dieu, qui a en lui la pensée de l'éternité, vous savez, ça c'est un verset de l'Ecclésiaste, qui est fait en image de Dieu, là encore c'est la Genèse qui nous le dit, nous sommes, l'homme est en permanence frustré de ne pas pouvoir vraiment tout accomplir. Vous vous rappelez l'histoire de la tour de Babel, qui nous raconte de façon un peu imagée comment l'homme essaye de faire tous ses efforts, il faut aller jusqu'au ciel, il faut essayer d'être aussi grand que Dieu. Et dans tout ce que l'homme fait, tout ce que l'homme construit, il essaye quelque part d'aller aussi haut que Dieu. Mais quelle frustration permanente, qui est peut-être à l'origine de ce stress que nous avons. On se rend bien compte que ça ne marche jamais totalement. Alors bon, modérons notre propos. La plupart des découvertes scientifiques, des prouesses techniques, etc., nous en profitons tous, hein, il ne faut pas cracher dessus. Ce n'est pas, rejeter le progrès et dire qu'il faut arrêter de... Alors d'aller sur Mars, je ne sais pas si c'est vraiment très utile, mais bon, il y en a qui ont l'air de mettre des milliards pour y arriver. Bon, on va les laisser faire. On verra après, mais... Se reposer, ça veut dire quoi? C'est dans le calme et la confiance, c'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre force. Votre force. Comment y arriver? Comment faire? Alors j'ai pris un exemple. Enfin, j'ai pris un exemple. Je vous propose un exemple. Vous connaissez le livre de Job. Job, ce gars qui était bien, sans aucun reproche, bien à tout point de vue. Bon, alors, il était riche en plus. Bon, voilà, tant mieux pour lui. Mais surtout, il avait une vie exemplaire et on parlait de lui comme d'un homme super. Et voilà, tout d'un coup, il tombe dans une, comme disait Lino Ventura, dans une béchamel pas possible. Il lui arrive tous les malheurs qu'on peut imaginer. D'un seul coup, il se retrouve, lui qui était un notable, quelqu'un qui allait bien, dont la vie ne posait pas de problème. Tout d'un coup, il est assis sur son tas de fumier, il a des démangeaisons parce qu'il n'a même pas de quoi se laver, etc. Enfin bref, pourquoi tout cela? Et le livre de Job est intéressant parce que, bon, après les 5-6 premiers chapitres qui plantent le décor, en quelque sorte, comme dans les tragédies, ou dans les comédies ou les tragédies anciennes, pendant 30 chapitres de ce livre, on voit Job avec ses amis, ses trois amis, ou malgré ses trois amis, je ne sais pas comment il faut dire, qui essayent de comprendre, mais qu'est-ce qui peut bien se passer? Pourquoi cela est possible? Et l'être humain fait ça en permanence. Pourquoi est-ce qu'il nous arrive ça? Pourquoi il y a une guerre au Proche-Orient? Pourquoi il y a des gens qui meurent? Pourquoi il y a des incendies de forêt? Pourquoi? Alors il y a des explications par-ci, il y a des morceaux, etc. Mais c'est jamais satisfaisant et ça ne va jamais au bout de la question fondamentale. Pourquoi l'homme n'est pas un être heureux? Pourquoi l'homme n'est pas en repos? Pourquoi l'homme n'arrive pas à simplement être dans la confiance qui lui donnerait cette force dont parlait ce verset du prophète Ésaïe? Et tout d'un coup, Dieu intervient dans le livre de Job. Et en 4 petits chapitres, il va arrêter l'histoire. Mais il répond à aucune des questions de Job, si vous lisez bien. Simplement, il prend Job par la main, en quelque sorte, et lui dit, mais dis donc toi là, où étais-tu quand j'ai créé la terre? Est-ce que tu connais telle et telle chose? Et Dieu simplement lui ouvre les yeux sur le fait que, lui non, il est petit, il est humain, il est emprisonné dans ses problèmes et dans ses difficultés qu'il n'arrive pas à résoudre, mais qu'il lève les yeux au ciel et qu'il regarde son Dieu. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Et Job, petit à petit, rentre dans ce discours. Il voit la puissance de Dieu. Mais en même temps, c'est un Dieu qui lui parle. C'est un Dieu qui s'occupe de lui. C'est un Dieu qui vient le chercher sur son tas de fumier, là, tel que nous le raconte l'histoire. Donc il voit non seulement la puissance de Dieu, mais aussi sa compassion, mais aussi son amour, mais aussi le fait qu'il se préoccupe du fait que Job, il est dans une impasse parce qu'il n'arrive pas à trouver la solution et à rentrer dans ce repos que Dieu nous propose. Et c'est le verset que beaucoup connaissent, qu'on doit plus ou moins... Il me semble qu'il y a un chant qui est bâti dessus, d'ailleurs. Hein, « Mon oreille avait entendu parler de toi. » Donc, il le savait. Et d'ailleurs, dans les discours de Job avec Eliphaz, Bildad et le troisième, je ne sais plus comment il s'appelle, mais bon, ses trois amis, il parle en permanence de Dieu. et de ce que Dieu fait, de ce que Dieu ne fait pas, de ce que Dieu permet, de ce que Dieu ne permet pas. Donc, leurs oreilles avaient entendu parler de Dieu. Et là, tout d'un coup, parce que Dieu l'a pris par la main et qu'il l'a fait changer de territoire en quelque sorte, Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil te voit. Maintenant, je suis proche de toi. Conversion et confiance, d'où découle, d'où vont découler pour Job, repos et calme, comme le disait Ésaïe. Et le dernier chapitre nous montre... Voilà, alors c'est une histoire qui est racontée. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de véritable là-dedans. Quelle est la part de véracité dans ça? Il y a sans doute une histoire réelle qui a été après utilisée pour symboliser des choses importantes qui nous parlent à nous aussi. L'homme est en permanence confronté au même genre de questions que Job, même si là, tel que c'est raconté, c'est vraiment le maximum des maximums. Il ne pouvait pas faire pire que ce qui lui est arrivé et dégringoler plus bas. Alors comment est-ce que nous réagissons quand il nous arrive des difficultés ou quand nous sentons la pression devenir trop forte? On va lire la suite du verset d'Ésaïe. Nous avons lu, c'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu, dit Dieu aux gens à qui il s'adresse. Je vous ai proposé ça, mais vous n'avez pas voulu. Vous avez dit, non, on va fuir à cheval. Eh bien oui, vous allez fuir. On aura des coursiers rapides. Eh bien, ceux qui vous poursuivent auront aussi des coursiers rapides. Et en fait, ce que Dieu dit, c'est, mais si vous voulez y aller tout seul, ça ne s'arrêtera jamais. Je vais prendre mon cheval. Oui, mais lui, il a un cheval qui va plus vite. Oui, mais j'en prendrai des plus forts. Ben, lui aussi, il va en prendre des plus forts. C'est ça que dit Dieu. Vous pouvez toujours essayer de courir comme ça en avant. Vous n'arriverez jamais à vous séparer de ce qui vous pèse parce que vous ne regardez pas au bon endroit. L'homme moderne, il veut être autonome. Alors, bon, par certains côtés, là encore, c'est plutôt très bien d'être autonome plutôt que d'être asservi, que certains asservissent d'autres, etc. Évidemment, et il ne faut pas non plus, encore une fois, vouloir retourner en arrière. Avant, ce n'était pas mieux. Hein. Cette prédication aurait sans doute pu être faite, pas tout à fait les exemples que j'utilise, mais il y a 200 ans, on aurait pu dire la même chose, j'imagine, sur le fait que c'est dans le calme et la confiance que l'on peut trouver le repos en Dieu. On va lire un autre texte du prophète Jérémie qui va nous aider à avancer un peu, qui dit un peu la même chose. « Ainsi parle l'Éternel, cherchez les chemins, informez-vous des sentiers anciens. Où est le bon chemin? Eh bien, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. » Mais ils répondent, « Ben non, nous n'y marcherons pas. » Vous voyez, on a la même idée que dans Ésaïe. Dieu tend la main, il propose quelque chose. Et les gens lui répondent, « Non, 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 on va se débrouiller tout seul. J'ai suscité pour vous des sentinelles. Soyez attentifs au son du corps. » Mais ils répondent, « Nous n'y serons pas attentifs. » Encore une fois, l'être humain, nous peut-être, qui au lieu de retourner à Dieu et lui faire confiance pour trouver le calme et le repos, préférons essayer d'y aller tout seul dans notre autonomie mal interprétée. Et un peu plus à la fin de cet échange de Dieu avec ses interlocuteurs, voici « Ainsi parle l'Éternel, je mets devant ce peuple des pierres d'achoppement contre lesquelles trébucheront ensemble les pères et les fils. » Du coup, ça va devenir un vrai problème. Et peut-être, par certains côtés, on a l'impression que notre époque vit aujourd'hui, quand on regarde, avec des tas de pierres d'achoppement devant notre chemin. Comment faire avec la géopolitique qui s'emballe? Comment faire avec la pauvreté qui recommence à augmenter? Comment faire avec le changement climatique que l'on ne maîtrise pas? Comment faire avec... Voilà, on peut hein, je vous fais pas le sommaire de vos journaux télévisés. Vous les avez, comme vous voulez, télévisés ou autre chose d'ailleurs. Mais... Et donc, devant nos pas, c'est difficile de trouver le repos. Et les gens avec lesquels nous vivons, avec lesquels nous partageons la terre en quelque sorte, ils ont du mal à trouver ce chemin parce qu'il y a tas d'obstacles que l'homme s'est mis en quelque sorte devant lui-même parce qu'il ne refuse de regarder et d'accepter la question que Dieu pose. Où étais-tu quand j'ai créé la terre? Arrête de penser que c'est toi qui vas tout régler. Essaye de voir, de monter d'un cran plus haut. Une pierre d'achoppement. Est-ce que ça évoque quelque chose pour vous? C'est une image que dans le Nouveau Testament, on voit reprise Et je vais citer un texte de l'apôtre Pierre. Approchez-vous de Jésus, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Car il y a dans l'Écriture, voici, je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle ne sera pas confondu. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle, une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ce que le Nouveau Testament nous a apporté, ce que nous croyons, nous chrétiens, c'est que cette pierre d'achoppement, cette difficulté, Jésus a voulu la transformer et devenir la pierre angulaire, la pierre de base, la pierre sur laquelle nous pouvons construire toute notre vie, toute notre réflexion, tous nos combats contre cette angoisse qui nous prend, contre ces difficultés, contre cette impossibilité de résoudre nos problématiques d'être humain. D'un obstacle sur la route, d'un obstacle infranchissable, voilà que Jésus en fait la base de la construction, les fondations. Hein, à l'époque, pour construire une maison, on n'avait pas les moyens de faire des forages comme on fait aujourd'hui pour aller mettre du béton jusqu'à 20 mètres dans le sol. Donc on empilait d'énormes pierres qui servaient de fondation de base. Et c'était la pierre d'angle sur laquelle après s'élevaient et se sont élevés des bâtiments, des cathédrales ou des choses comme ça. Donc ça fonctionnait. Et voici ce que nous propose la Bible. Et voilà ce que je voulais revenir avec vous. Oui, Dieu s'est reposé le septième jour. Il nous propose de rentrer dans son repos, nous aussi. Mais la solution, le chemin pour y arriver, c'est de nous reposer sur Jésus, nous appuyer sur lui, nous ressourcer en lui, nous laisser guider, porter par lui. On a lu tout à l'heure le texte dans l'évangile de Matthieu où Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et je lis la suite, parce qu'elle nous avait tronqué la suite, Christelle. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. » Prenez mon joug sur vous. Alors, est-ce que vous savez tous ce que c'est qu'un joug ? J-O-U-G. Voilà. C'est une pièce de bois qui sert à lier deux animaux quand ils vont tirer une charge. Alors parfois, dans notre tête, le joug, c'est un instrument de torture, ou c'est un instrument de contrainte, etc. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Moi, je me rappelle très bien, tout petit, c'est-à-dire il y a très 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 longtemps, en Haute-Loire, d'où venaient mes grands-parents, qui étaient quand même un peu un coin reculé de France, moi, je me rappelle très bien avoir vu le paysan attacher deux bêtes avec le joug, tirer la charrette avec le foin en vrac quand il était allé chercher ça. Et les deux bêtes devaient après... Alors, imaginez le truc, hein, deux vaches attachées ensemble, la charrette qui devait peser un peu son poids, mais enfin, pour elle, c'était pas énorme. Et elle devait monter en marche arrière sur une rampe qui permettait de décharger le foin dans le grenier qui était au-dessus et qui, après, on allait le descendre dans l'étable. Ouais, vous imaginez un peu le truc. Si j'étais Daniel, j'aurais fait un dessin, mais bon, je n'ai pas ces compétences. Donc, ouais. Et le joug, en fait, c'est pas du tout une pièce d'entrave, c'est pas du tout une pièce de torture. C'est ce qui permet à l'animal le plus expérimenté de guider l'autre. C'est ce qui permet aux deux animaux de marcher d'un même pas. Et je vous dis, quand ils montaient la charrette en marche arrière, là, bon, alors, il y a le paysan qui était là, qui guidait, vas-y, etc. Donc il faisait ce qu'il fallait pour que ça aille droit. Mais il n'y avait pas beaucoup plus de largeur que la charrette elle-même. Donc il ne s'agit pas de dévier, sinon tout se cassait la figure. D'accord ? Donc c'était quand même sérieux. Et le joug permettait cela. Le joug, c'est en fait un instrument de solidarité. Ça permet que les deux animaux soient solidaires et qu'ensemble, ils avancent. D'ailleurs, un joug, ça pèse 10 à 15 kilos de bois, d'accord ? Vous imaginez, c'est sur deux vaches qui pèsent entre 600 et 800 kilos. Donc c'est comme si on vous mettait sur le dos un truc qui pèse même pas un kilo, quoi. Donc c'est pas une charge. Et quand Jésus dit « mon joug est aisé, mon fardeau est léger », il dit « mais c'est pas pour vous charger, mais c'est pour que vous puissiez avancer du même pas que moi. Prenez mon instruction, recevez mes instructions, mon joug est aisé, mon fardeau est léger. C'est pas pour vous charger, c'est pour que vous puissiez avancer dans la bonne direction, ne pas vous écarter, ne pas partir dans un endroit qui est une impasse, qui ne vous mènera nulle part. » Alors parfois la route est difficile quand même. Parfois nous aussi nous avons des difficultés. On a beau être chrétien, on n'est pas épargné par des temps compliqués. J'espère pour vous pas aussi grave que Job, parce que lui quand même il a cumulé, si j'ose dire, mais Comment on fait après ça? Je vais redonner un exemple qui est dans l'Ancien Testament. Je fais un peu plus que 15 minutes, mais comme il n'y a que des adultes, c'est pas grave, hein, d'accord? Non, c'est les vacances, alors on a des consignes très très strictes, hein, faut pas... Mais bon, vous me connaissez, c'est pas... Moïse, quand même un personnage emblématique de l'Ancien Testament. Moïse qui a fait un truc qui fait sortir le peuple d'Égypte, qui les fait traverser la mer Rouge, qui commence à avancer. Et puis à un moment, il dit, bon, vous restez calme, je monte sur la montagne, parce que Dieu va nous donner sa loi, et Dieu monte. Et pendant qu'il n'est pas là, qu'est-ce qu'ils font? Tout d'un coup, ils se disent, mais on n'a plus personne, on est tout seul, on n'a plus personne. Donc ils se font le veau d'or, vous connaissez cette histoire, donc ils récupèrent tout ce qu'il y a en or, ils font tout ça, ils font une statue qui devait ressembler vaguement à un veau, et puis ils en font leur dieu, et Moïse descend de la montagne, et c'est la catastrophe. Comment faire après ça? Comment repartir? C'est peut-être arrivé dans les vies de quelques-uns d'entre nous. Tout allait bien, tout d'un coup, paf, tout se casse la figure. Et comment on fait pour repartir derrière ça? Comment on fait pour se relever? Et Moïse est là, il dit, attends, c'est ton peuple. Tu me dis de le guider, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et dans Exode, au chapitre 33, verset 12, Moïse dit à l'Éternel, vois, tu m'as dit, fais monter ce peuple. Tu ne me dis pas avec qui je vais pouvoir faire le travail. Cependant, tu me dis, je te connais par ton nom, etc. Tu obtiendras ma faveur, mais là, si j'ai obtenu ta faveur, fais-moi connaître tes voies. Je raccourcis un peu là, vous suivez là, ce qui est inscrit. Et l'Éternel répondit, qu'est-ce qu'il dit l'Éternel? Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Et Moïse est reparti et il a recommencé et le peuple a continué à lui casser les pieds, à se révolter, à ne pas être content parce qu'ils en avaient marre de la manne, parce que les cailles, il y en a, ça va, à un moment, parce que, etc., etc. Vous lirez toute cette histoire longue dans l'Ancien Testament. Mais Moïse est reparti. Pourquoi il est reparti? Parce qu'il a accepté de se mettre sous le joug avec celui qui lui a dit « Je marcherai avec toi et je te donnerai du repos ». Alors, je ne sais pas si sa vie a été un long fleuve tranquille ou vraiment du repos derrière, hein, faut pas non plus imaginer, mais il a été dans le repos de Dieu. Parce que Dieu lui a dit, oui, si, si, moi je suis avec toi, je vais marcher avec toi. Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Il a dit ça, alors ces versets on les connaît, hein, on les a dans la tête, mais je pense qu'ils méritent vraiment d'être médités. Jésus veut nous donner sa paix et il sait très bien qu'on a des avatars de paix autour de nous, des gens qui nous proposent des choses, mais ce qu'il veut vraiment, c'est que nous attachions à lui. Il veut notre repos. Et bien sûr, il nous dit, je vais vous préparer une place qui sera une place de repos. Cette notion de repos que Dieu nous propose, elle a été symbolisée par le sabbat. Vous savez, le sabbat qui a été institué, donc aujourd'hui, avec dans la vie chrétienne, on a un peu transformé les choses, mais c'était l'idée de marquer le fait que, oui, il n'y a pas que le travail, Dieu s'est reposé après avoir travaillé pendant 6 jours. Et nous-mêmes, nous savons que nous avons une place qui est réservée auprès de Jésus dans l'éternité. Comment, quand, où, quoi? Je n'ai pas beaucoup d'informations à vous donner sur le sujet. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites là-dessus. Ce qui est important, c'est de se dire que Dieu veut nous conduire, non pas en nous chargeant d'instructions compliquées à suivre, avec un joug qui est léger, qui est facile, qui n'est pas difficile à porter, mais il nous dit, la solution, c'est dans le retour à Dieu et dans la confiance que sera votre calme et sera le repos. Et un jour, nous connaîtrons parfaitement ce que cela voulait dire. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, dès maintenant, comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu se repose des siennes. Cette image, elle est toujours là. Nous-mêmes, si nous arrivons à rentrer dans le repos que Dieu nous propose, nous allons nous reposer d'un certain nombre de choses qui nous pèsent. Ça ne va pas les enlever. On ne peut pas dire qu'il ne va pas falloir après retrousser les manches et prendre la pelle et commencer à pelleter ce qui est à pelleter. Ça, c'est peut-être important. Mais ça sera dans une autre attitude parce que nous aurons trouvé le repos que Dieu veut donner. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Voilà ce que je voulais vous laisser pour terminer cette idée. Oui, on est en vacances, enfin bon, la plupart d'entre nous sommes en vacances. Ce n'est pas illégitime de chercher du repos, mais que nous puissions tout le temps nous dire c'est quoi le repos que Dieu veut nous donner? Est-ce que c'est juste l'inactivité ou le fait d'aller faire des embouteillages sur la route pour joindre un lieu de vacances? Ou est-ce que c'est... Non, c'est plus que ça, c'est autre chose. Et ce repos, nous sommes appelés à le découvrir pas seulement au mois de juillet et août, mais aussi les 10 autres mois de l'année, même si nous sommes en pleine activité et même si l'activité est parfois bien lourde. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci parce que dans tous les exemples que la Bible nous donne, nous voyons des situations compliquées, des gens qui ont vécu des situations aussi compliquées peut-être ou plus que les nôtres. Mais nous voyons aussi à quel point tu es compatissant, à quel point tu tends la main. Et si on accepte cette main tendue, si on accepte de marcher avec toi, si on accepte de porter ce joug pour être synchrone avec toi, alors tu nous promets, et nous l'avons vécu pour la plupart d'entre nous, tu nous promets le repos, c'est-à-dire une âme apaisée, qui sait pourquoi elle est là et qui sait ce qui l'attend. Que nous puissions, Seigneur, vraiment nous laisser gagner par cette idée que ce que tu veux pour nous, c'est notre repos, c'est-à-dire une pleine confiance en celui qui nous a créés, qui a créé tout ce qui est autour de nous. Amen.